Est-ce que ça démarre? Est-ce que ça s'est allumé? Oui. Le son est coupé. Bonjour à tous. On me reçoit 5 sur 5. C'est nickel. Oula. La chaise queen bien ce matin. Essayez de pas trop bouger les fesses. Est-ce que vous allez bien ce matin? Bien réveillé et tout? Dernier jour de la semaine. Encore un petit peu de courage. Encore un petit peu de courage. Par quoi on commence? Jérôme, il ne sait plus quoi faire ce matin. Il est complètement dans les choux, mais non. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Et je vais remercier les contributeurs ce matin. Alban, Romain, Retrop, Lucilia, Lucileia, désolé si j'ai écorché ton prénom. Et Ed Chiro, merci beaucoup de vos contributions, contributeurs. On a tellement besoin de vous. Merci en tout cas de votre fidélité. Hein, merci à tous ceux qui contribuent. Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à un moment. Je sais que c'est pas toujours, on peut pas toujours contribuer. Mais merci en tout cas de votre soutien. Ça nous aide. Vous n'imaginez même pas à quel point. merci Samuel de mettre tous les liens, dernière vidéo, etc. Et on va commencer par la petite expression désuète du jour. Je tends le bras comme de tradition pour prendre notre petit missel, hein, notre Bible de chaque matin. Et ce matin, nous allons voir... Oula, comment on dit ça ? Calambreden. Calambreden ce matin. Le radical ça évoque le creux, tandis que breden s'apparente à bredouiller. Presque toujours employé au pluriel, le mot qualifie des propos extravagants, proches de l'incohérence. Il a probablement donné calembour, en association avec le mot bourde. N'en déplaise aux amateurs de ces jeux de mots. Hein ? Alors, quand vous direz Jérôme, le matin, il ne raconte que des calembredaines, eh ben, vous allez passer pour quelqu'un qui s'y connaît, hein ? Qui sait de quoi il parle en expression désuète. Ça tombe très bien. Calambredaine, j'avoue que je n'ai jamais utilisé. Les carabistouilles aussi, oui. Oh, ça a été utilisé récemment. Ouais, c'est pas faux. on devrait appeler cette rubrique, c'est pas faux. C'est pas mal, j'aime bien, c'est pas faux. Bah oui, il y a un examen à la fin de l'année, il y aura un QCM. Et vous devrez répondre au moins un score de 85% d'expressions désuètes connues. Sinon, vous êtes exclu. Comment tuer sa chaîne YouTube ? Petit 1. Un peu frisqué, mais c'est vendredi. Oui, écoute, hein, le vendredi, c'est un jour sympa. Sauf quand t'es YouTuber et que t'as une vidéo qui est en retard. Je vous fais partager mon vécu, mais ce que je vais partager avec vous, qui vous importe certainement beaucoup plus, eh bien, c'est le sommaire du Techscope de ce matin. De quoi donc on va parler ? On gagne quoi si on gagne le même costume qu'Albert ? Ouais, distribution de costumes de Pédobert pour tout le monde. Allez, ce matin, on va parler du 10-year challenge. Hein. Tout le monde s'amuse à mettre des photos de soi avec 10 ans d'écart. Mais est-ce que ça ne serait pas une façon détournée de collecter de nouvelles données ? On étudiera un petit peu la question. On parlera également de rumeurs et de leaks, puisque le Pixel 3 Lite aurait été plus ou moins dévoilé. En tout cas, on aurait des informations. Et c'est un smartphone assez intéressant. On parlera également de Mastercard qui va nous simplifier la vie, mais honnêtement, c'est un truc vachement bien, je suis content d'avoir une Mastercard, puisqu'il va imposer une notification obligatoire avant le prélèvement automatique. Je vous expliquerai cela. On passera ensuite à un sujet assez... Moi, en tout cas, ça me passionne. Alors, c'est issu du site... Je sais pas s'ils ont un magazine papier, L'Opinion, donc bon... Si vous connaissez pas, c'est un titre à tendance quand même assez libérale. Ça parle effectivement de la France doit-elle développer des robots de combat ? Et c'est justement une question qu'on devrait commencer à se poser. On va dire qu'il y a du pour et du contre. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix ? On le saura. On parlera également de Google et de fossiles qui se font des bisous. Des bisous avec plein d'argent derrière. Puisque, a priori, Google aurait signé Alors, c'est pas vraiment un rachat, mais je vous expliquerai un petit peu. Mais pour sortir justement un wearable, probablement une montre, qui serait, est-ce que ça sera la fameuse Watch Pixel ou la Pixel Watch? On en discutera et on terminera avec, est-ce que vous voulez vous mettre un peu de luxe dans les oreilles? Eh bien, Louis Vuitton lance des écouteurs, des intra-auriculaires à 1 000 $. 1 000 $ dans les oreilles, ça fait 500 $ par oreille. Ça va, tranquille. On en parlera justement un petit peu. Est-ce qu'ils valent le coup? Est-ce que c'est vraiment un produit qui déchire sa race? On en parlera à la fin. Voilà en tout cas pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. On n'en a pas d'autres. T'as pas de vidéo en retard, c'est juste pas de date optimale. Non, c'est vrai que la grosse vidéo qui doit sortir aujourd'hui en deux parties, on aurait pu la sortir hier, mais on va plutôt la sortir aujourd'hui. Donc ça va. Mais normalement, on aurait dû tourner deux vidéos cette semaine, ce n'est pas le cas, donc on est en retard sur notre planning. Voilà, vous savez tout. Et plouf, t'as 500 $ qui tombent dans le caniveau. Exactement. Allez, on va commencer, effectivement, je vais vous enlever ça. On va commencer en parlant du 10 Year Challenge. Vous avez probablement vu passer, puisque c'est un peu à la mode depuis une semaine. Ce 10 Year Challenge, c'est donc des gens qui postent des photos de 10 ans d'intervalle pour voir à quel point ils ont changé. Alors, on peut quand même admirer le changement de Mark Zuckerberg, puisque ça va être un petit peu de lui dont ça va changer. Mark Zuckerberg, est-ce que les reptiles vieillissent autant en 10 ans? À vous de me le dire. Bon, on sent quand même que la ligne de cheveux du front, elle commence à bouger, hein. Mark, à mon avis, dans 10 ans, c'est Jeff Bezos, hein. Peut-être les muscles en moins, mais on verra. On verra, on verra. Bon, on a dit pas le physique, ok. Bref, c'est très populaire. Beaucoup de gens utilisent ce hashtag 10 Year Challenge. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de caché derrière cette histoire? Effectivement, c'est Kate O'Neill, une contributrice du site Wired, qui a fait part de sa réticence à se prêter à ce jeu. Ah putain, ces espèces de loteries qui s'ouvrent sur les sites. Ah, je devrais les boycotter. Elle a fait part de ses réticences. Elle a dit, moi, il y a 10 ans, je me serais probablement prêté au jeu, mais aujourd'hui, en train d'évoluer, d'évaluer de quelle manière ces données pourraient être utilisées à profit pour rendre les algorithmes de reconnaissance faciale plus familiers au vieillissement et à la reconnaissance de l'âge. Effectivement, cette mode a commencé sur Facebook avant de se répandre sur d'autres réseaux sociaux, Twitter compris, et c'est vrai qu'en donnant cette information autour d'un hashtag 10 Year Challenge lié à votre identité, en donnant une information de date assez précise, pour peu que vous trichiez pas avec les 10 ans, hein, j'en ai vu qui trichaient, vous donnez quand même une information, ce qu'on appelle une information qualifiée, à des bases de données, à une intelligence artificielle, qui peuvent nourrir effectivement cette intelligence artificielle pour la rendre plus efficace dans cette manière de détecter ce qu'est le vieillissement. Parce que c'est pas facile pour une intelligence artificielle. Vous l'avez bien vu quand vous faites de la reconnaissance de visage avec vos bibliothèques photos. Qu'il n'est pas toujours facile pour une intelligence artificielle de dire que le gros barbu, ben c'est le même mec qui, il y a 10 ans, était fin comme une asperge et un berbe. Le deep learning a besoin de comprendre comment on peut évoluer les visages pour en extraire effectivement des algorithmes pour pouvoir mieux identifier les visages, même quand ils changent drastiquement en 10 ans. Les photos sont envoyées à qui? C'est pas qu'elles sont envoyées spécifiquement, c'est qu'elles sont là. Je veux dire, n'importe qui, toi, si tu tapes le hashtag 10 Year Challenge, bah, tu trouves les photos de tout le monde. Donc c'est assez facile à collecter, en fait, ces données-là. Donc, si pour une des deux photos, on envoie une photo de ses fesses, on fausse l'algorithme. Bah, non, Guillaume. Tu crois être plus malin que l'algorithme. Mais justement, en fournissant des erreurs à l'algorithme, à l'intelligence artificielle, au deep learning, tu lui apprends ce que c'est qu'une fesse par rapport à un visage. Voilà. D'accord, il y a des gens qui ont des têtes de cul. Mais justement, ça lui permet de détecter qu'il y a des petits malins et des statistiques de petits malins et même de cerner qui sont les petits malins. Non, donc effectivement, en lui envoyant des faux, tu l'aides à devenir plus intelligent. Donc tu l'aides de toute façon. Donc est-ce qu'il faut qu'on soit parano à ce point-là ? Moi, j'ai envie de dire, alors là, après, moi, je donne mon opinion sur cette histoire. J'ai envie de dire oui, ou oui et non. Parce que c'est quand même... Est-ce que ces intelligences artificielles ont besoin d'un 10-year challenge ? Est-ce qu'elles n'ont déjà pas des bases de données énormes de nos visages avec des photos qui ont des dates ? Alors, vous pourrez me dire, oui, mais parfois, les dates, ça s'est trompé, mon fichier, etc. Mais pareil, il faut un certain nombre d'erreurs pour qu'une intelligence artificielle se développe. Je ne suis pas certain qu'il y ait un complot derrière. Après, on peut se poser la question, quand même, est-ce qu'on nourrit pas, est-ce qu'on donne pas trop d'infos ? De toute façon, c'est un signe des temps. On a basculé dans un monde qui est beaucoup moins naïf. Et ces jeux, et c'est exactement ce qu'elle dit. Ces jeux, il y a 10 ans, on l'aurait fait parce que c'est rigolo. Aujourd'hui, et je pense que c'est plutôt un signe de bonne santé, tant pis si on devient un petit peu trop parano, mais je pense que c'est un signe de bonne santé, d'hygiène numérique, que de se dire, cette photo que je mets de moi, ou cette information que je donne, est-ce que j'ai besoin de la donner ? Et à qui ça va contribuer ? Est-ce que c'est bien ? D'avoir quand même un geste de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais juste le faire en étant conscient. Conscient que ce n'est pas un geste anodin, que ce n'est pas parce qu'on le poste sur notre compte à nous que ça reste à nous. Quand on poste quelque chose sur Internet, ça appartient à Internet, et Internet, c'est ouvert à tout le monde. Et une photo que vous avez postée sur Internet ne disparaîtra jamais. Il faut juste être au courant de ça. Donc, si dans vos projections de vie, vous prévoyez de devenir leader de la résistance quand il y aura la grande guerre des robots, c'est peut-être pas une bonne idée d'uploader plein de photos de vous qui vous permettront de vous faire identifier par des intelligences artificielles. Hein, Sarah Connors, hein, t'arrêtes tout de suite de poster tes selfies. Parce que sinon, on va la perdre, cette putain de guerre. Il n'y a plus le sapin. Oui, non, petit à petit, j'enlève les décos de Noël, hein, quand même, Gilou. Hein. Je comprends que vous vouliez que Noël dure, mais vous verrez, dans la vidéo qui sort aujourd'hui, il y a encore plein de décos de Noël, et je sens que je vais me le faire reprocher. C'est parce que les gens ont participé à ces jeux il y a 10 ans que les intelligences artificielles sont à ce niveau. Oui, après, encore une fois, l'idée n'est pas de tomber dans une parano absolue. Mais juste d'être conscient de ce qu'on fait. Déjà, c'est un premier... Ma banque a même pas ton mail. En même temps, tu sais, ta banque, elle a certainement un des datas les plus précieux. C'est qu'elle a toutes tes habitudes de consommation. Elle sait exactement ce que tu as acheté, quand tu l'as acheté. Et où tu l'as acheté. C'est certainement la base de données la plus puissante qu'ont les banques, hein. Par contre, le Père Noël est toujours là. Il y a un Père Noël dans mon décor. Ah, c'est moi le Père Noël, d'accord, ok. Au contraire, il faut poster plein de photos de personnes différentes avec le même nom pour tromper l'intelligence artificielle. Vive la résistance. Et je suis pas sûr, monsieur Rockvert, parce qu'en fournissant des erreurs, on apprend aussi beaucoup de choses à l'intelligence artificielle. Non, si vous voulez vraiment disparaître du radar, bah, il faut arrêter de poster des photos de vous sur Internet. C'est aussi simple que ça. Et trouver les moyens, quand c'est possible, d'effacer les traces que vous avez laissées. Et ça demande beaucoup de discipline. Et c'est un choix de vie. Peut-être que dans les 20 ans à venir, vous aurez eu raison de faire ça. Après, je dirais que c'est un rapport à vous-même. L'important, c'est de se sentir bien. Moi, personnellement, j'ai pas envie de me priver de tout un tas de services qu'Internet me rend. J'essaye juste comme discipline mentale de me dire, est-ce que tu as vraiment besoin de partager cette photo? Est-ce que tu as vraiment besoin de partager ça? Est-ce que tu as vraiment besoin de dire ça? Je me pose juste la question. La plupart du temps, je me dis, oui, ok, il n'y a pas vraiment de problème. Mais de temps en temps, notamment sur Instagram, etc., j'ai un peu freiné sur qu'est-ce que j'échange de ma journée, qu'est-ce que je partage de ma journée, qu'est-ce que je partage de ma vie. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le ménage dans mon ancien Instagram. Mais avant, je partageais plus facilement des informations. Rassurez-vous, vous êtes sauvés par l'incompétence des banques. Ouais, enfin, il y a les néobanques hein, qui arrivent. Hein. Ils sont pas incompétents. Hein. Ils ont bien compris l'intérêt de ces fichiers-là. Hein. Perso, je n'envoie jamais de photos de moi. De toute façon, on le sait, quand il y aura la grande guerre avec les robots, c'est les influenceurs qui vont disparaître les premiers. Ce qui fait dire à certains que ça serait peut-être pas une mauvaise chose. Zéro de photos de moi en 20 ans. Bah écoute, c'est bien, Romain. Bonne discipline. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut tomber dans la parano? Je pense pas. Est-ce qu'il faut toujours se poser la question? Je pense que oui. Je vais mettre une fausse moustache pour le prochain live. Ouais, puis je vais m'arracher la vraie, ouais. On continue. On va parler effectivement de leaks, de rumeurs autour du fameux Pixel 3, mais dans sa version Lite. Que nous cacherait ce smartphone que Google s'apprêterait à lancer? Eh bien, en fait, on aurait donc une version Lite du Pixel 3. Lite en prix, on n'a pas le prix, mais l'idée, quand tu lances un Lite, c'est quand même de lancer un truc moins cher. Il serait équipé, a priori, d'un Snapdragon 670, 32 Go dans sa version de base de stockage et 4 Go de RAM, avec un écran de 5,6 pouces FHD+. Donc pas autant que le Pixel 3 aujourd'hui, une finition en plastique hein. Après, comme je vous l'avais montré dans le test du Pixel 3 que j'avais fait sur la chaîne, c'est vrai que la finition actuelle du Pixel 3, les matériaux choisis font très plastique. C'était un peu, pas le reproche, mais en tout cas, le constat que j'avais fait sur le Pixel 3, bon là vous voyez pas grand chose, mais le rendu est déjà assez plastique. Donc, est-ce que ça changera beaucoup de choses? Je sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, l'appareil photo dans ses grandes lignes serait le même. Et autre très bonne nouvelle, c'est qu'on n'aurait plus les haut-parleurs en stéréo en façade, mais par contre, ça serait le retour de la prise jack. Donc, pour le Lite, il remettrait la prise jack. C'est assez intéressant. Est-ce qu'il sera rechargeable sans fil? À voir, on n'en sait rien. Au niveau de la caméra, il y aura quand même des changements. C'est que il y aura la caméra de façade qui ne sera plus. Il y aura plus le côté grand angle selfie qui, c'est vrai, est pas mal sur le Pixel 3. Ça, a priori, ça serait plus sur le Pixel 3 Lite. Mais par contre, pour tout le reste, moi, je trouve que ça serait un smartphone extrêmement intéressant pour Google. Ils se sont un peu plantés sur le prix, je pense, du Pixel 3. Ça a refroidi pas mal de monde. D'ailleurs, il a beaucoup baissé hein, depuis l'époque où j'ai fait la vidéo. Il devient beaucoup plus intéressant aujourd'hui, le Pixel 3. C'est un smartphone très intéressant par ses capacités photo. C'est aujourd'hui, moi je vous le dis, hein, c'est mon smartphone préféré au niveau des photos. Alors, j'ai pas testé le P20. J'ai le 6T, mais bon, le 6T, on va dire que c'est pas la photo son point fort, son point le plus fort, on va dire, il est pas mauvais, mais c'est pas son truc. J'ai l'Apple et j'ai eu les Samsung, c'est le Pixel 3 qui fait les meilleures photos. La vidéo, c'est un peu différent, mais pour les photos, ce serait nettement le Pixel 3, quoi. Moi, j'ai le 3, c'est le 3 que j'ai, mais ça change rien au niveau des photos, hein, le XL. Monsieur Roquevert, tu poses la question à Emmanuel Pampuri, d'accord. Parce que sinon, salut Emmanuel. Il est là le matin aussi, Emmanuel. Il va y avoir des questions croisées maintenant quand Emmanuel Pampuri va être dans la chatroom. Ça va me déconcentrer encore plus. Donc très intéressant. Moi en tout cas, je pense que Google ferait un très bon mouvement. On ne sait pas les dates de sortie, mais a priori, ça serait annoncé pendant la Google I.O. Et a priori, la Google I.O., il n'y a pas de date annoncée. Mais si on se réfère à l'année dernière, la Google I.O. s'est tenue en mai. Donc voilà, plutôt vers le printemps, quoi. Oh, mais il y a Steven, mais il y a tout le gratin ce matin. Steven doit avoir beaucoup de montage pour être là aussi tôt le matin. Steven, il fait du montage à la chaîne. C'est vrai que le montage le matin, c'est vraiment le meilleur moment pour faire du montage. Écoute, je vais tâcher de pas trop te déconcentrer, Steven. Pour que tu fasses des vidéos qui poutrent leur race. Allez, on continue. Après avoir parlé du Pixel 3 Lite, en tout cas les rumeurs, parlons d'une initiative de Mastercard, une initiative hyper intéressante. Mastercard va imposer une notification obligatoire avant le prélèvement automatique. À qui ça n'est pas arrivé, hein, on voit un truc, on se dit « Waouh, c'est super !» En plus, le premier mois est gratuit. Vite, vite, je donne mon numéro de carte bleue. Et puis, je suis pas con, je retiendrai bien qu'à la fin du mois, il faut que je signale que je ne veux pas payer ce service, que je l'ai juste testé. Et puis, on oublie, parce qu'on a autre chose à faire dans sa vie. Et vous en apercevez, quand vous regardez 6 mois après votre prélèvement, que vous continuez à utiliser un service, que vous continuez à payer un service que vous n'utilisez pas. C'est vrai que avec la multiplication des abonnements et des choses comme ça, ça peut arriver même aux plus ordonnés d'entre nous. Alors, les vrais ordonnés, ils mettent une petite notification dans leur agenda. N'oublie pas de dire que tu ne veux plus payer tel service que tu es en train d'essayer gratuitement, mais quand même. Pas de montage ce matin, il prend un petit déj. Eh ben écoute, Steven, c'est la belle vie. Hein, ces youtubeurs qui ne travaillent pas à 8h22 du matin. Hein? Et voilà, tes vidéos vont être encore en retard. Tu vas devenir comme Naotech. Bravo. Ça commence comme ça, puis ça dérape. En tout cas, ce que va faire Mastercard, c'est effectivement maintenant d'imposer à ces solutions, avec si vous utilisez une Mastercard, si vous mettez votre Mastercard pour un abonnement gratuit, Mastercard imposera à ce service d'envoyer un SMS ou un email pour vous notifier la fin de la période d'essai gratuit. Ce message devra contenir des informations claires et précises, le coût de l'abonnement, la date du prélèvement, le nom du commerçant, les instructions pour annuler l'abonnement, et l'entreprise devra vous fournir des factures mensuelles précisant le montant exact du débit, un numéro ou un mail de contact, ainsi que la méthode pour annuler votre abonnement. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Bravo Mastercard, et je pense que Mastercard a suffisamment de poids pour imposer ça. Donc, vivement que Visa s'y mette aussi. Mais moi, j'ai une Visa, sinon le reste, c'est des... Attends, on va vérifier, yep. J'en ai beaucoup, hein, des cartes. Mastercard, ma N26, c'est une Mastercard. Mastercard. Picard et la carte Monoprix. J'ai pas de Visa. J'ai que des Mastercard. Ça sort la black. Et ouais, la N26, j'ai la black. Et je peux vous la montrer parce que le numéro n'est pas en façade. Elle est belle, hein? Enfin, maintenant, elle est un peu usée. Tous ces comptes en Suisse. Et ouais. Bah, le seul problème, c'est qu'ils sont vides, mais bon. J'aime bien avoir plein de cartes, mais avec rien dessus. Non, avoir plein de cartes, ça ne veut pas dire que t'es riche. Hein. Au contraire, généralement, c'est plutôt le signe du mec qui fait les vases communicants entre ses comptes. Merde. Là, j'ai un peu beaucoup d'agio sur celui-là. Bon, je vais prendre sur celui-là pour mettre sur celui-là pour baisser les agio. C'est le début de la fin. La Revolut, c'est une Visa, ouais. Mais la Revolut, c'est pas moi qui l'ai. C'est Marion qui a le contrôle de la Revolut. On l'utilise comme carte de couple, en fait. A priori, c'est applicable de toutes les pour toutes les Mastercard. C'est en bêta hein, pour l'instant, ce système. Mais Mastercard a bien l'intention de l'imposer. Et moi, je trouve que c'est bien, même très bien. Il y a de la caillasse chez Naotech. Si tu appelles du gravier de la caillasse, oui. parlons d'un sujet que je trouve hyper intéressant, même si c'est assez polémique et ça va partir dans tous les sens. Je trouve que c'est un article, pourtant, normalement, c'est pas trop un truc que je lis, le magazine L'Opinion. Je sais pas d'ailleurs s'ils ont un magazine papier, mais le site de L'Opinion, je lis pas, mais... Il parle d'un entretien avec Marc Chassillan, qui est ingénieur et auteur et spécialiste de l'armement terrestre, et qui pose la question, la France doit-elle développer des robots de combat ? C'est vrai que là, on n'est plus dans des futurs improbables, avec des robots géants qui s'affronteraient, ou des Terminators sur des champs de bataille qui exterminent l'humanité. On est en train de parler des 10 ans à venir, et qu'aujourd'hui, il y a des débats sur est-ce qu'on doit automatiser les armes, est-ce qu'on doit amener l'intelligence artificielle sur les armes. On sait qu'une arme serait, avec une intelligence artificielle et robotiserée, serait beaucoup plus performante que n'importe quel soldat d'élite qu'il soit, même s'il s'appelle Rambo. En termes, en tout cas, de visée, de prise en considération de tous les paramètres environnementaux pour la trajectoire d'une balle de fusil, d'un obus, d'un missile. Et puis, quelque part, ça fait bien longtemps que nos armes ont déjà de l'intelligence artificielle. Énormément de processus sont aujourd'hui auto-guidés dans l'armement moderne. Mais la question, c'est est-ce qu'on continue à mettre des humains derrière ces armes ou est-ce que, finalement, on ne pourrait pas robotiser tout ça ? Il faut savoir qu'effectivement, c'est un débat dont le globe s'est emparé. Tous les pays se posent la question. Le truc, c'est qu'on n'arrive absolument pas à un accord sur l'interdiction de ces armes robotisées. Donc, tout le monde, même si certains vont dire d'un côté « Ah non, 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 nous, on fait pas ça », tout le monde, en tout cas les pays, j'allais pas dire occidentaux, mais industrialisés, est en train de développer des systèmes. La Corée du Sud, ils se réservent tous les moyens de combattre leurs ennemis et ils investissent dans les robots. Aux États-Unis, l'armée US a lancé le NGCV, New Generation Combat Vehicle, qui serait composé de 2 éléments, un véhicule avec un équipage humain et un robot de combat destiné à détruire l'ennemi. Donc il y aurait un pilotage humain quand même, mais la vraie projection sur le champ de bataille serait effectivement un robot. Les Chinois sont très actifs avec des engins comme le Dragon Horse 2 ou le Gen Yu. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais a priori, c'est des robots de combat. La France et l'Allemagne ont décidé cette année de développer ensemble leur futur système de combat terrestre, le Main Ground Combat System, pour remplacer les chars Leclerc et les chars Léopard 2. Beaucoup de concepts sur lesquels les ingénieurs travaillent en France et en Allemagne font appel massivement à la robotique. Mais si pour des motifs politiques, on décide de ne pas intégrer cette politique, ce que dit justement ce chercheur, c'est que ça sert à rien de sortir le MGCS comme char, puisqu'il sera exactement comme les chars d'aujourd'hui, autant d'ailleurs prolonger la durée de vie de nos chars actuels. En gros, si la France et l'Allemagne et l'Europe prennent une position éthique en disant « nous, on ne développera pas des robots de combat », c'est pas la peine qu'on investisse de l'argent dedans. Et la vraie question, après, elle est là. Et c'est compliqué. C'est vrai que c'est super angoissant de se dire que les champs de bataille du futur, ça sera des robots et qu'il n'y a que les pays riches qui pourront envoyer des robots pour dominer des populations. Mais du coup, on peut avoir une position morale, on peut avoir une position éthique. Mais si cette position éthique et morale nous conduit à ne pas développer des robots et que les autres pays développent des robots, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied ? Finalement, on retombe dans le débat qu'a eu la France au moment... Enfin, il n'y a pas eu de débat parce que c'était le général de Gaulle. Mais bon, globalement, est-ce qu'il faut qu'on prenne l'arme nucléaire ou pas ? Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Si les autres se mettent à développer des robots de combat, on va peut-être pas y aller avec notre bite et notre couteau non plus. Alors, bien sûr, la meilleure hypothèse, c'est qu'on arrête les guerres hein, et qu'on se fasse des bisous. Et à un moment, il faut être un petit peu réaliste. On n'est pas encore dans l'avènement de l'humanité où on arrêtera de faire la guerre, si on y arrive un jour. Aujourd'hui, après, la vraie question, c'est ce sur quoi mon cerveau moulinait ce matin. Finalement, alors oui, ça a quelque chose de moralement choquant de se dire, on le voit déjà avec les drones, de se dire on va envoyer des machines pour mettre les humains à l'abri, à les combattre, pour qu'il n'y ait plus de pertes humaines, mais que des pertes de machines. En plus, par souci de performance, etc., etc. On peut se dire, la guerre, du coup, devient complètement désincarnée. Il n'y a plus de courage, il n'y a plus... et puis, on peut se dire, est-ce qu'une guerre qui serait gagnée par des robots, elle est vraiment gagnée? Est-ce qu'il y a eu un investissement? Enfin, il y a plein de questions qui pourraient se poser. Mais finalement, ce que je me disais ce matin, c'est que l'humanité, entre guillemets, a déjà eu ces questions philosophiques. Quand on a inventé le fusil, et quelque part, quand on a inventé l'arc, quand l'humain a trouvé des manières de tuer d'autres humains ou de blesser d'autres humains à distance, en utilisant même autre chose que ses poings, il a déjà désincarné la guerre. L'implication est de moins en moins physique, même si, bon, il faut quand même être... Mais on peut tuer de très loin aujourd'hui sans même voir son adversaire. Et ça fait longtemps. Donc, quelque part, on pourra se dire, est-ce que c'est tellement différent? Bref, ça fait poser plein de questions. Ça fait poser plein de questions, ça fait même poser des questions sur qu'est-ce que la guerre aujourd'hui? On le sait, depuis surtout les guerres de décolonisation, que la guerre traditionnelle, le champ de bataille, ça a beaucoup moins d'importance qu'avant. Les guerres sont des processus économiques, politiques, beaucoup plus importants. On sait que c'est pas forcément celui qui a la meilleure technologie qui gagne. Regardez les guerres de décolonisation, le Vietnam, etc. C'est pas parce qu'on va avoir des robots et des drones qu'on va forcément gagner l'opinion publique. Donc c'est des questions stratégiques complexes. Je veux bien des robots tueurs, mais j'en veux un à moi à la maison. Ça va être sympa, tiens, l'ambiance. La guerre des robots entre eux pour le compte d'humains. Les robots vont peut-être dire qu'il vaut mieux se débarrasser des humains. Oui, là, on tombe effectivement dans le scénario classique. La guerre ne se jouera pas sur le champ de bataille, sur les réseaux numériques. Je crois que la guerre, de toute façon, ça fait longtemps. En tout cas, le champ de bataille et on va dire le conflit traditionnel n'est plus qu'une partie de la géopolitique. On ne peut pas envahir simplement un pays en y mettant des chars, quoi. Ça se passe pas comme ça aujourd'hui. L'opinion publique est devenue un facteur hyper hyper important dans le règlement des conflits, dans l'imposition d'une volonté contre une autre, parce que sinon. C'est un peu ça, hein, la guerre. Le pouvoir économique, ce qui est, pour moi, là, je fais mon petit analyste en plus petit avec des bretelles. La dernière guerre qui a été, entre guillemets, gagnée par uniquement une course de l'armement, c'est la guerre froide. Mais on voyait déjà à cette époque des conflits où des pays qui avaient beaucoup moins de moyens ont gagné, le Vietnam en est un bon exemple, la guerre d'Algérie ou ce genre de choses, ont gagné des conflits en ayant beaucoup moins de puissance militaire conventionnelle. Après, on n'a pas non plus basculé dans une humanité où il n'y a plus de conflits qui se résolvent à coups de missiles dans la gueule et de morts et de civils et d'horreur. Hein. On vit un monde formidable. On a gardé tous les aspects très primitifs et dégueulasses du conflit, tout en y ajoutant un vernis de guerre chirurgicale, probablement le terme le plus dégueulasse qui ait jamais été inventé. La chirurgie qui sauve des vies, et ben on utilise ça pour des missiles. Bref, on verra où ça va nous mener, mais pour en revenir juste à la question, je pense que c'est une fausse question. Ça serait suicidaire de la part de la France et de l'Allemagne, de l'Europe, de ne pas développer des robots de combat si les autres en développent. Ça ne nous empêchera pas d'essayer de tenir une position morale et d'essayer d'obtenir des moratoires et des lois pour limiter effectivement, la robotique dans l'armement, mais c'est comme les conventions de Genève et ce genre de choses, hein. On les suit ou on les suit pas, hein. Les robots ont beaucoup de failles, maintenance, gourmand en énergie, cher. Je crois que toutes les failles que tu viens d'évoquer, si tu mets à côté les failles et les faiblesses des humains sur un champ de bataille, l'humain, il fait pas le poids. Hein. Les défaillances humaines sur un champ de bataille, c'est à mon avis beaucoup plus lourd que les défaillances possibles d'un robot. Hein. La question est mal posée. Bon, bah écoute, vous prendrez vos copies, hein, vous avez 5 heures, et vous me rendrez ça ce soir. En tout cas, c'est des questions intéressantes à se poser. Les missiles sont des forces de dissuasion. La dissuasion, c'est une manière moderne de parler de la guerre. Hein. Pour moi, en tout cas. Allez, on continue, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cet article, mais c'est vrai que c'est des sujets que je trouve passionnants, même s'ils font un peu peur, mais c'est peut-être ça qui les rend passionnants. Passons à quelque chose de beaucoup plus léger. Hein. Google va-t-il sortir une Pixel Watch? Eh bien, les choses ont l'air de se préciser, puisque Google a signifié qu'ils ont signé avec le groupe Fossil. Fossil, vous savez, c'est pas les fossiles, hein, c'est pas les vieux fossiles comme moi, hein. Fossil, c'est, ils font de la maroquinerie, des montres et ce genre de trucs. Voilà. Le Fossil Group, ils ont signé a priori pour 40 millions de dollars un deal. Alors, c'est pas un rachat. Disons que c'est un rachat qui se dit pas, on va dire. L'idée, c'est de travailler avec les ressources qu'a développé Fossil au niveau des smartwatches pour développer un produit. C'est un petit peu l'idée. On sait que Fossil se démerde pas trop mal dans les smartwatches, puisque mine de rien, ils ont creusé, même s'ils ont des parts de marché assez faibles, mais ils ont réussi à creuser leur trou. Ils ont démarré en 2015, puisqu'ils avaient racheté Misfit, souvenez-vous, en 2015, pour pouvoir acquérir des technologies pour développer. Donc ils ont très bien compris, Fossil, qu'une smartwatch, c'est un mélange entre de la mode, de l'apparence. Tiens, regardez mon nouveau bracelet d'ailleurs. J'ai pris un bracelet spécial vacances au Vietnam. Camouflage. Non, c'est bracelet pour que je respire un peu mieux quand il fait chaud. C'est à la fois du style et de la technologie. Ça, Fossil l'a assez bien compris. C'est là où pas mal de montres technologiquement vachement intéressantes se sont plantées parce qu'elles avaient négligé l'aspect style de leur apparence. Il n'y a que les geeks qui s'en foutent de l'apparence de leur smartwatch. 30 cm de neige dimanche. Waouh. Évite de dire ok et ok. D'accord, j'ai compris. Mais je vais essayer. Fossil a une mauvaise image auprès des amateurs de montres. Oui, mais ça joue pas dans la même catégorie. Oui, c'est des fausses belles montres. Oui, non, mais en même temps, c'est le marché de la montre, je le connais pas bien, mais tu me parles des horlogers suisses et tout ça, ça joue dans une autre cour. Hein. Ça joue pas sur le même truc. Bref, Fossil aujourd'hui, c'est que les montres dans le groupe Fossil, c'est 400 millions de dollars en business. C'est quand même une grosse part des 2,5 milliards de chiffre d'affaires que produit le groupe. Non, revenu, si c'est chiffre d'affaires, je sais plus. Voilà, ce partnership peut être très intéressant. C'est vrai que Google a du mal avec Android Wear, a du mal à imposer. On sait que Samsung a abandonné Android Wear pour mettre son propre OS sur ses wearables. Donc Google aurait tout intérêt aujourd'hui à sortir la Pixel Watch. Le marché quand même de la montre connectée, quand je me souviens qu'il y a 2 ans, on n'y croyait plus du tout. Ça a floppé, ça se vend pas, ça marchera jamais. C'est en train de reprendre du poil de la bête. Les ventes à Noël l'ont confirmé. L'Apple Watch se porte bien, les montres Huawei se vendent bien aussi, donc il y a quand même un vrai marché de ces accessoires, extensions de nos smartphones, avec des capteurs pour le sport, pour la santé et des fonctions utilitaires. Pour moi, c'est le mélange qui a assez bien réussi l'Apple Watch, où on peut l'utiliser de manière sportive, mais aussi juste pour mesurer l'activité, si on n'est pas un sportif, c'est pas une Fitbit, quoi. Avec un tournant sur la santé qui est hyper intéressant, parce que la possibilité de mesurer certaines choses qu'un smartphone ne pourrait pas, et avec en plus une interface qui va en faire un accessoire de pilotage de son smartphone, ou en tout cas de liaison avec son smartphone, qui le rend intéressant à avoir. Je crois que c'est aujourd'hui la bonne recette pour sortir une bonne smartwatch. Elles sont trop grosses, les montres fossiles. Bah, de toute façon, après, les grosses montres, il y a toujours eu une tendance sur les grosses montres. Donc, il y a des gens qui adorent. Je connais des femmes qui adorent avoir des grosses montres. Je connais des hommes qui adorent avoir des grosses montres. Et quelque part, quand je vois la taille d'une Apple Watch, qu'on dit grosse comme montre, par rapport à certaines montres plus traditionnelles, mais qui sont juste énormes, après, c'est des questions de goût, hein. Après, alors, je suis pas du tout d'accord avec toi, Maxi Chess. Justement, ce que Apple a pas trop mal compris, c'est que le design est important. Après, on aime ou on n'aime pas le design de l'Apple Watch. Ça, c'est encore un autre débat. Mais Apple a beaucoup travaillé et travaille, on le voit notamment avec la nouvelle Apple Watch, sur l'apparence visuelle et le côté style quand même de sa montre. Parce que c'est quand même un accessoire extérieur qu'on porte, qui nous définit. Apple a quand même très bien travaillé au niveau des bracelets. Toute la variété, alors oui, tous les corps sont pareils, mais toute la variété vient dans le choix des bracelets. Et ils sont plutôt pas mal démerdés dans les possibilités de bracelets, en fait. Plus de montres depuis l'arrivée des téléphones portables. Moi, je portais pas de montre depuis 20 ans. C'est l'Apple Watch qui m'a remis à la montre, hein. Donc, intéressant en tout cas, intéressant. Alors, c'est pas un rachat de fossiles par Google. On va dire que c'est un partenariat très serré. Et ça sera intéressant de voir ce qu'ils vont nous sortir. Parlons de Louis Vuitton, parce que c'est important, tech Louis Vuitton. Ben, pourquoi on en parle dans un Techscope de Louis Vuitton? C'est parce que Louis Vuitton va sortir des écouteurs intra-oculaires Bluetooth. Mais comme c'est Louis Vuitton, bien sûr, ça va sortir des trucs assez chers, puisque ça va être 1000 euros la paire. Alors, je vous les montre. Ouh là 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 là, vous vous mettez une valise dans... Non, faut pas que je me moque. Ça peut être le délire de chacun. Moi, je sais que Louis Vuitton, c'est pas du tout mon délire, mais ça peut plaire à certains. Il y aura bien évidemment plusieurs modèles, hein, fournis dans un joli écran que tu pourras absolument pas... Ça, a priori, si c'est leur truc de recharge, c'est complètement con. Quoique ça ressemble à un poudrier, ça peut aller dans un sac féminin. C'est un peu gros pour un sac masculin, quand même. Donc, vous aurez divers couleurs. Bon, une finition très premium. Faut aimer Louis Vuitton, hein. Moi, personnellement, c'est pas un design auquel je suis sensible, mais ça peut plaire à certains. Qu'est-ce qui se cache derrière ces écouteurs à 1000 $? Eh ben, en fait, ni plus ni moins que des écouteurs qu'on retrouve chez Master & Dynamics, puisque c'est eux qui vont fournir la partie hardware, et vous pouvez trouver exactement cette même paire d'écouteurs. Oula, il faut que j'arrête de vous afficher le truc. Yep. Cette même paire d'écouteurs pour 299 $ au lieu de 1000 $. Donc, ça fait un petit peu cher Louis Vuitton sur l'oreille, mais quand on aime, on ne compte pas. Hein. Oui, là, bah, de toute façon, c'est le marché du luxe. Si vous aimez les produits de luxe, vous savez très bien que vous payez la marque. Et Louis Vuitton sait très bien qu'en vendant ses produits 1000 €, il en vendra paradoxalement plus que s'il les vendait 300 $. Louis Vuitton ne peut pas se permettre de vendre ce que je vous explique souvent sur le marché du luxe. Le marché du luxe est basé sur la notion de prix psychologique. Ce n'est absolument pas des prix qui ont à voir avec le prix de revient d'un produit. Sinon, ça ne s'appelle pas du luxe. Le prix du luxe, c'est le prix d'une certaine rareté. Cette rareté s'obtient en réservant le produit à une certaine élite qui peut se la payer. C'est le principe même du prix psychologique. Et le prix psychologique, si Louis Vuitton demain lance des sacs à 40 euros, ils sont morts. Ils ont détruit leur image de marque. Donc, je sais que dans la chatroom, très peu d'entre vous sont sensibles à ça et on s'en moque, mais n'empêche qu'on a des tonnes d'exemples de produits que nous, on trouve ridiculement chers parce qu'ils ont juste un logo dessus et qui se vendent comme des petits pains, et vraiment comme des petits pains. Pour moi, je n'arrive absolument pas à comprendre les trucs suprêmes, là, les suites suprêmes, machin. Parce que y a rien de... À part un gros logo rouge, il n'y a rien. Le vêtement n'a rien de meilleur. Et puis même en termes de look, à la limite, je peux plus comprendre certaines marques de luxe qui développent des looks uniques. Enfin, les trucs suprêmes... Mais bon, voilà, je juge pas. On dirait des boutons de manchette. Des boutons de manchette. Oui, c'est vrai que... Et à la limite, c'est exactement le truc. C'est marrant que tu dises ça. Je me disais, putain, ils auraient pu faire un truc qui aurait été génial. C'est des écouteurs que tu peux porter aussi en bouton de manchette. Et ça serait la classe. Imagine, tu arrives dans ta soirée James Bond avec tes boutons de manchette Louis Vuitton. Et tu fais, allô ? La classe, quoi. La classe absolue. Et quand tu veux écouter discrètement de la musique dans la rue, tu te balades comme ça. Là, 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 là. Voilà. Ça serait un produit innovant. Ça devient tout trop cher, les produits ou les moyens. Pour les moyens des Belges. Oui, enfin, soyons honnêtes, Océane. Le produit de luxe a toujours gardé son côté inaccessible. Sinon, ça ne s'appelle pas un produit de luxe. Et le paradoxe du produit de luxe, j'ai beaucoup travaillé à une époque pour des marques de luxe, quand je travaillais dans la pub. Le paradoxe, c'est que vous seriez très surpris de voir qui achète des marques de luxe. Et c'est souvent des gens qui n'ont pas les moyens, en fait. Oui, il y a des riches qui achètent des marques de luxe. Mais en fait, les riches vont plutôt préférer acheter des marques qui sont encore au-dessus des marques de luxe. Quelque part, Louis Vuitton n'est pas assez luxueux pour les très très riches. Et le Louis Vuitton, un exemple typique et un cas d'école, ça a été les Sharp Burberrys dans les années 90. Les Sharp Burberrys, le fameux motif, a été à l'époque de la mode des BCBG, un truc qui appartenait à... Ça coûtait cher, hein, une écharpe, cachemire, machin, avec le motif Burberry. Ça s'est retrouvé très très vite avec la mode du BCBG, qui était à cette époque-là une mode, dans le début des années 90, une mode grand public. On a retrouvé cette fameuse écharpe Burberry imitée, copiée. Mais même l'original Burberry était acheté par une classe moyenne, voire une classe défavorisée, comme signe extérieur de réussite et de richesse. C'est un marqueur social. Et pour un domaine qui est peut-être plus proche de la tech, on sait que, par exemple, les téléviseurs les plus chers, ou même les voitures les plus chères, ne sont pas forcément achetés par des gens qui sont très riches. C'est parfois, hélas, des gens qui vont s'endetter jusqu'au cou, et mal manger, mal se loger, mais ils auront un produit de luxe. C'est triste, mais quelque part, c'est compréhensible. Mais voilà, c'est un truc très intéressant à étudier. Hein, ce n'est absolument pas un marché rationnel, quand j'en vois certains qui sont là à dire « Mais comment ça se fait qu'un téléphone soit aussi éloigné de son prix de revient ?» Mais le prix de revient, le prix d'acquisition d'un produit et ses matériaux n'a rien à voir avec le prix de vente. Le prix de vente ne se décrète pas comme ça. Peut-être dans un monde communiste, mais pas dans un monde capitaliste. Le prix se détermine par la rareté, l'offre et la demande. Je répète souvent l'exemple du parfum. Vous croyez que le parfum que vous avez dans votre bouteille, le prix des composants du parfum, ça vaut le prix où vous payez votre parfum ? Ah, vous rêvez. Parce que si vous êtes choqué par les marges que fait Apple, allez voir les marges que se font les parfumeurs. C'est quelque chose. Voilà. En tout cas, moi, j'en veux pas des écouteurs de... À la limite, il y aurait une vidéo à faire, c'est d'acheter les écouteurs à 300 €, imprimer une feuille de papier Louis Vuitton, la coller sur tes oreillettes à 300 € et dire bah voilà, j'ai économisé. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On va passer au traditionnel vide ton fac, hein, puisque nous vidons nos facs le matin. J'ai une question platinium, j'avais vu ce matin. J'ai une question platinium, donc une question prioritaire. Et c'est Alain Mille qui me demande, existe-t-il une bonne application tierce sur iPad pour Instagram ? Alors, c'est vrai qu'Instagram n'existe pas sur iPad et à mon avis n'existera pas. Peut-être jamais sur iPad, parce que Instagram ne veut pas qu'on poste trop des photos anciennes sur Instagram. Bah, c'est pas du data utile pour eux, hein, si on poste des photos qui datent ou qui sont pas à l'endroit où on est. Eux, le data intéressant, c'est ce qu'on fait à un moment T, hein, Instagram. Donc l'iPad, qui n'est pas un médium de l'instant, les intéresse beaucoup moins. Donc, j'ai des doutes qu'Instagram développe un jour une appli native iPad. Est-ce qu'il existe des alternatives ? Je ne saurais pas te dire. En fait, je n'ai jamais essayé. J'ai Instagram sur mon iPad, mais c'est l'Instagram natif. Et sinon, Instagram, c'est vraiment surtout quelque chose que j'utilise sur mon iPhone. Je l'ai très peu utilisé sur mon iPad. Le seul moment où j'utilise sur mon iPad, c'est quand je retouche une photo avec mon iPad et que je la poste ensuite sur Instagram. À ce moment-là, j'utilise l'Instagram qui est sur mon iPad. Voilà, j'espère t'avoir répondu. Je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste, effectivement, des applications tierces qui remplacent ou qui complètent Instagram. Est-ce que vous avez des questions, la chatroom ? Je me demande quel YouTuber aura testé les écouteurs. Alors là, je vais te dire, le tutoriel, il y en aura plein. Parce que rien que le titre, j'ai testé des écouteurs à 1 000 $. Il y a plein de YouTubers tech. Et encore une fois, je ne critique pas. Je dis juste que je fais pas le même métier. Qui vont, tu fais plein de vues sur les 8-13 ans en flexant, en montrant tes muscles, en disant « Regardez, j'écoute, je teste des écouteurs à 1 000 €. » Donc oui, tu auras plein de tests, je pense. La débilité, c'est que Vuitton n'a aucune légitimité en tech, c'est clair. Après le vide ton fac, vide ton portefeuille, oui, c'est un peu ça. Est-ce que c'est galère ou possible de faire des montages vidéo sur smartphone pour faire de la vidéo de voyage ou de petits vlogs sans gros effets ? Alors, je sais pas bien sur Android. Honnêtement, j'ai jamais essayé sur Android. Sur iPhone, c'est tout à fait possible avec LumaFusion. Tout dépend le niveau de montage que tu veux faire. Mais avec LumaFusion sur iOS, hélas, LumaFusion n'existe pas sur Android, mais c'est un logiciel de montage étonnamment performant. Alors, est-ce que c'est pratique ? Moi, je l'ai fait. J'ai déjà monté des vidéos avec l'iPhone. Ça demande un petit peu plus de temps. C'est pas l'objet le plus confortable pour faire du montage. Mais encore une fois, ça dépend du type de montage que tu as à faire. As-tu conscience que ton bracelet d'Apple Watch est un cauchemar pour les tripophobes ? C'est quoi les tripophobes ? Je sais même pas ce que c'est, Vincent, un tripophobe. C'est les gens qui détestent les trous ? Ah, vous avez du mal avec le gruyère, alors. Est-ce qu'il existe un câble Lightning pour charger et brancher un micro en même temps? Oui, t'as des doubleurs Lightning. Attends, je vais voir si j'ai ça. Je dois avoir ça dans ma pochette secrète. Hop. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Si c'est ça que tu demandais, hein. Voilà. Merde, j'ai pas la marque dessus. Mais tu peux trouver ça sur Amazon. J'ai un Lightning d'un côté et ça double ta prise Lightning. Donc tu peux par exemple mettre ton smartphone en charge et mettre tes écouteurs Lightning ou un micro Lightning de l'autre côté. Donc cherche doubleur Lightning. Doubleur Lightning. C'est la peur des petits trous rapprochés. Bah, j'en suis désolé pour toi, Vincent. Pour Vincent, je cache mon bracelet de montre. Et je me moque pas, parce que les phobies, je sais ce que c'est. Moi, j'en ai des complètement irrationnelles aussi, des peurs. Et moi, j'ai peur des requins dans les lacs, tu vois. Donc, j'ai tellement peur des requins que même dans un lac, j'ai peur des requins. Et les encore pire, les requins guêpes, pour parler d'un sujet que certains d'entre vous connaissent. Il n'y a pas de trou dans le gruyère, hérétique. Que fait la communauté suisse de Naotech? Il n'y a pas de trou dans le gruyère. Ah bon? C'est dans les mentales qu'il y a des trous? Je me trompe? Ah ouais, c'est les mentales où il y a des trous. Ouais, je suis con, alors. Oh, putain, bouffon! Le vrai gruyère n'a pas de trou. C'est vrai, en plus, je devrais le savoir. J'ai vécu en Savoie une partie de ma vie. Alors, tu me diras, en Savoie, est-ce qu'on fait du vrai gruyère? Alors, ah là là, je veux pas froisser nos amis suisses. Hein. On est reparti dans la guerre France-Belge-Suisse. Le gruyère est suisse. Oui, on vous le laisse. Non, c'est bon le gruyère. Enfin, c'est pas non plus un fromage de ouf, quoi. Gruyère, c'est un peu le truc qu'on râpe, quoi. Non, tu vois, on va pas commencer à comparer du gruyère avec Beaufort, c'est pas mal. Je sais pas, avec du Cantal. C'est quand même pas. Hein, du Comté. Qu'est-ce que je dis du Cantal? Du Comté. Il faut. Hein. Oh là, j'ai tous les Suisses qui sont en PLS. Ils critiquent le gruyère national. J'ai vécu où en Savoie? J'ai vécu à Saint-Jean-de-Maurienne. Toute une partie. En fait, quand on est revenu des États-Unis, on a déménagé à Saint-Jean-de-Maurienne. Vous imaginez, pour ceux qui connaissent Saint-Jean-de-Maurienne, vous imaginez le choc. Surtout, vous imaginez ce qu'était Saint-Jean-de-Maurienne autrefois. C'était une petite ville. Hein. C'est une cité médiévale en Suisse, le gruyère. Je crois que je le savais, ça. Ouais, enfin, le Cantal, oui, c'est pas mal. Je lance un défi que tu fasses une vidéo avec des logiciels de montage libres et gratuits. Je suis prêt à fournir une liste. Non, je ferai pas le tutoriel. Honnêtement, je te le dis, je le ferai pas. Tu n'imagines pas le boulot que ça me demanderait d'apprendre tous ces logiciels que je n'ai jamais utilisés et les tester. Non, les logiciels de montage gratuits, j'ai absolument pas envie de mettre les mains dedans. Mais vraiment pas. Je suis désolé, hein, mais. Moi, de toute façon, les pâtes dures. Les fromages italiens, il y a des trucs bien aussi. Hein. Je suis désolé de dire ça pour les Français, mais j'aime bien, moi, les fromages italiens. Et ouais. Ah, Da Vinci Resolve. Ouais. Attendez une seconde. Yep. Putain, j'ai beau mettre une pancarte sur la porte, ne pas déranger en enregistrement, j'ai quand même des livreurs qui viennent livrer. Désolé. Oh non, le cheddar, non. J'aime bien le cheddar, mais c'est pas un fromage. Il est déjà 9h. Mais oui, mais on part sur le fromage. Ton micro, tu l'as acheté où ? On va en faire une vidéo un jour. Hein. C'est un Blue. C'est le Blue Spark. Je sais pas s'il existe encore en noir. C'était une édition, je crois, limitée. Mais sinon, la référence, c'est le Blue Spark. Il faut que je fasse la vidéo sur ce micro. J'ai juste pas encore eu le temps. Oui, alors j'étais en train de parler de DaVinci Resolve. DaVinci Resolve gratuit, oui, pour du 1080p. Après, il devient payant. Et pour moi, oui, non, mais oui. DaVinci Resolve, à la limite, un jour, faire une discussion avec un spécialiste de DaVinci Resolve. Moi, j'ai pas vraiment le temps de me mettre à fond à DaVinci Resolve pour me former, pour avoir vraiment une expérience. Bouchon de Dordogne, je sais pas si j'ai déjà goûté le bouchon de Dordogne, mais je crois que c'est bon, ouais, j'en ai déjà entendu parler. C'est un vide ton from, exactement. Oui, chaque pays a des bonnes spécialités, mais ne déconnons pas quand même. Hein. Oui, le gouda c'est bon, oui, le cheddar c'est bon, oui, il y a des trucs qui sont bons dans certains pays. Enfin, ça a quand même rien à voir avec les fromages français. Hein, faut pas déconner non plus. Hein. Je veux bien qu'on soit cool, mais il y a des limites quand même à la décence. Tu vas pas comparer du rocamadour avec du cheddar, quoi. Merci en tout cas de me donner Karim Yatrib. Je connais 2-3 personnes hein, qui travaillent toute la journée avec DaVinci Resolve. Donc, moi, mon logiciel de montage, c'est Final Cut. Ah, le maroilles, j'avoue. Alors, le maroilles, j'aime bien dans la cuisine, quoi. J'avoue que j'ai un souvenir ému d'une cuisse de poulet au maroilles à Lille que j'avais beaucoup aimé. Les petits burgers au maroilles, c'est pas mal, ouais. La France, le seul pays où tu peux manger un fromage différent chaque jour, sans problème. Après, soyons honnêtes, il y a des fromages français qui sont dégueulasses. Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a qui sont dégueulasses. Le Monster, ouais, c'est bon, mais c'est un délire, quoi. Alors oui, non, le vieux mythe que plus un fromage pue, plus c'est bon, non. Je connais des fromages qui puent bien, qui sont dégueulasses. Ça marche pas à tous les coups, hein. Que penses-tu des smartphones Oppo ? Pas grand-chose, j'en ai jamais testé. Donc je saurais pas te dire. Désolé les vieux, mais ça n'est rien plus. Il n'y a rien de plus bon que la vache qui rit. Écoute, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans la vie. Je veux bien comprendre. Tu vois, on a eu le débat au salon de la photo avec Stéphane Couchou. Oui, on peut avoir des délires sur le qui rit, la vache qui rit, et c'est des goûts régressifs. Et moi, j'adore par exemple la vache qui rit fondue avec des bretzels. C'est un truc, c'est un délire à moi. Mais c'est un délire. On parle pas. C'est pas du fromage. On parle d'autre chose là, quoi. Non. Oui, je sais. Le trou du cru, ça existe. Oui. Enfin, le fromage corse, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Hein. Putain, et tout le monde sort son fromage, là. Ouais. Enfin, pareil. Le chavroux, c'est pas du fromage. Je veux bien qu'on se tape un délire, la tartine de chavroux, moi j'aime bien aussi, mais c'est pas un fromage, soyons sérieux. C'est comme si vous étiez en train de me dire que un smartphone était un vrai appareil photo. La mimolette, la tête de moine, ouais, c'est pas mal aussi. Tout le monde y va de son fromage le plus savant. Non, je connais pas le Herve. Hervé ou Herve, je connais pas. Mais j'avoue que c'est ça qui est génial dans les fromages français, c'est que tu peux effectivement en découvrir toute ta vie, en fait. C'est fou quand même qu'à partir de lait qui a mal tourné, l'humanité et l'humain est capable de créer autant de variétés. Moi, c'est un truc qui me fascine, en fait, quand on y pense. Est-ce que j'ai vu les annonces Shadow d'hier ? Tu veux dire sur iOS ? On en a parlé hier, il y a eu d'autres annonces ? J'ai pas suivi. Ah, c'est clair que le pain en France, il y a des bons pains à l'étranger, mais putain, en France, on en est... En Allemagne, il y a des bons pains aussi, mais il faut aimer ce type de pain-là. Putain, ça me donne envie de... Putain, n'empêche, une chaîne où on goûterait que des... On fait des unboxings de fromage sur une chaîne. Putain, ça serait bien. J'aurais des petits problèmes de cholestérol, mais... Ah là là. Des unboxings de fromage. Les Français sont bons pour des trucs excellents à base de trucs moisis. C'est pas faux qu'il y a quelque chose sur notre identité nationale. Ah, le Mondor, j'avoue que le Mondor, c'est un de mes péchés mignons. Le Mondor chauffé, qu'on mange à la petite cuillère, Marion, elle trouve ça dégueulasse. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Hein. Vacherin, Mondor, j'aime beaucoup les fromages de Savoie, enfin les fromages de montagne à pâte molle. Le reblochon est probablement un de mes fromages favoris. Et il y a des très bons reblochons, arrêtez de croire que c'est que du fromage à tartiflette. Non, j'ai pas vu les annonces Shadow d'hier, ils ont annoncé quoi hier, Shadow ? On peut faire un live non public sur YouTube pour tester sa config. Oui, tu peux. C'est franc-comtois, le Mondor ? D'accord, pardon. Comme c'est un truc qu'on mange souvent, effectivement, après, je suis pas un spécialiste. Hein. La tartiflette, le truc qu'on mange quand on n'a pas de raclette chez soi. Je suis pas d'accord, par là. La tartiflette, quand c'est bien fait, c'est quand même un plat qui a sa particularité. C'est pas juste de la... C'est pas de la raclette. C'est pas la même chose, quand même. J'aime pas les raclettes. J'avoue que je préfère la fondue à la raclette, moi. Mais j'aime bien les raclettes. J'avoue qu'une bonne fondue, c'est pas mal aussi, hein. Tu la mets à quelle heure en ligne ta vidéo ? Je sais pas encore. Faut que j'y réfléchisse. On a encore 2-3 trucs à terminer avec Arena dessus. Donc ça dépendra quand on aura fini. Faut pas dire à un Suisse j'ai mangé une fondue savoyarde, ça va le vexer. Faut dire j'ai mangé une fondue genevoise. Oui, ça va les Suisses. Hein. Ah, ils ont parlé du Shadow Ultra avec des composants vraiment haut de gamme. Bon, bah, je regarderai. Effectivement, j'ai pas vu ça hier. Bon, allez, il faut que j'arrête. Il est 9h10. Gardez des questions pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Mangez du fromage. Mangez du reblochon. Ça donne des bons nichons, comme on dit. Des beaux nichons. C'est très sexiste hein, comme accroche. Passez en tout cas un très bon week-end. Et on se retrouve lundi. Ciao tout le monde. Bye bye.